Bonjour. En fait, je suis assez contente d'être ici parmi vous. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Et en fait, ça me tient vraiment à cœur cette école d'hiver, puisque la première édition de l'école d'hiver en 2013, c'était suite à un projet de recherche dont je vais parler aujourd'hui, c'est European Acoustic Heritage, dans lequel une des activités scientifiques s'agissait de faire une école d'hiver sur le son. C'était la première école d'hiver au Cresson. Et depuis, merci beaucoup pour toutes les organisateurs. Je sais, hein, c'est un travail fou, hein, pendant des mois et des mois. Et puis après, en fait, mais c'est ravissant, en fait, de rencontrer les autres, de faire un réseau. Enfin, je trouve qu'une cette fois, c'est... Enfin, c'est toujours une réussite qu'on sent après et pendant cette école. Donc en fait, aujourd'hui, grâce à la thématique que je trouve assez intéressante, la question de l'hospitalité et le campus, en fait, je vais présenter deux travaux que je fais ici en France et puis au Caire sur des bâtiments. C'est des bâtiments... d'architecture, donc deux établissements, c'est ici et l'ENSAG, et aussi la faculté de l'ingénierie où il y a le département d'architecture où je travaille. J'étais informée en tant que diplômée, en tant qu'étudiante, et puis maintenant je travaille en tant que professeure. Donc en fait, dans ce cadre-là, je vais travailler sur la question de la mémoire sonore. Et en fait, il s'agit tout simplement comment on se souvienne d'un bâtiment par le son. Donc en fait, la première, donc, c'est ces deux bâtiments-là. Et en fait, entre l'école d'architecture et la faculté polytechnique, l'ingénierie, c'est quand même un grand écart dans l'enseignement, dans la manière d'éduquer l'architecture, et aussi dans l'espace sonore, puisque en fait dans les écoles d'architecture il y a la fabrication, l'école d'ingénierie, en fait il y a la fabrication par des machines, donc il y a des sons, enfin des machines. Donc en fait, pourquoi le sonore? Donc ça, en fait, c'est les deux bâtiments, donc ici l'ENSAG, ici le Caire. En fait, ce bâtiment-là a été construit pendant les années 70, fin des années 70. Et le bâtiment, au Caire, c'est un palais qui a été construit en 1832. Donc en fait, la composition architecturale, les vocabulaires sont complètement différents, et on va voir comment en fait ces espaces sont autrement et ils gardent une trace de mémoire complètement différente par rapport aux usagers. Et en fait, pourquoi le sonore? Bien évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait mon doctorat ici au Cresson, et puis mon post-doctorat, puis je travaillais un tout petit peu, puis je suis retournée en Égypte. Donc en fait, puisque c'est ici la notion d'ambiance a été née, surtout l'ambiance sonore, c'était le début d'une pensée sensible de l'espace, à la fois architectural et urbaine. Et en fait, j'essaye dans mon démarche, dans mon enseignement en Égypte, de travailler sur les bâtiments en tant que milieu sonore, tel que les décrit Jean-François Augoyard. Donc en fait, ce travail-là, c'est issu des deux types d'activités scientifiques. Le premier, c'est des projets de recherche. À l'ENSAG, c'était dans deux projets, projets de recherche. Le premier, European Acoustic Heritage, qui était sur un fonds européen en 2010-2013. Et puis un projet national qui était l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle. Et en fait, dans le cadre de ce projet-là, il s'agissait de travailler sur les écoles d'architecture et la manière dont on enseigne l'architecture pendant le XXe siècle. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'en fait, dans les années 60, il y a ce qu'on peut dire, un tournant dans l'enseignement entre les beaux-arts et les écoles d'archi, pour devenir des écoles d'architecture, qui implique en fait plusieurs changements de pensée. La première chose, c'est la localisation. C'est l'endroit où on met les écoles d'archi. Et en fait, c'était d'insérer les bâtiments dans le contexte urbain pour dire, pour renforcer en fait le rôle des architectes dans la vie et dans dans la vie quotidienne, dans la vie sociale. Donc en fait, c'est une relation entre la société, la ville et les établissements. Donc en fait, on va voir comment ces conditions-là ont impacté le design initial de l'architecte Roland Semonet qui a fait cette école d'architecture et comment en fait c'est changé dans le temps. Et le deuxième contexte, en fait, c'est l'exercice pédagogique où j'enseigne au Caire en fait un cours qui s'appelle Soundscape and Oral Architecture, paysage sonore et l'architecture sonante. Donc en fait, ça c'est le rendu des étudiants que je vais présenter. Je voulais juste dire que, Laura, s'il vous plaît, qu'en fait le travail sur l'histoire de l'enseignement a été en fait publié dans cet ouvrage qui se trouve à la bibliothèque, dans lequel il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé dessus sur le son et sur d'autres thématiques sur l'enseignement, dont un article sur la mémoire sonore de cet établissement. En fait. L'objectif, pour moi, c'est de cibler les dispositifs archiphoniques, faisant mémoire. Donc ça peut être des dispositifs qui, en fait, purement architecturaux, des dispositifs architecturaux qui, en fait, provoquent des rencontres sociales particulières, qui font de l'ambiance. Et puis, ça peut être simplement des sonorités par des voix, par des sons, enfin, des pratiques sociales pures, un son des profs qu'on entend, qu'on sait, c'est ce prof-là qui enseigne dans l'amphithéâtre, etc., etc. Donc, en fait, je voulais savoir comment souligner, mettre à l'écoute ces phénomènes et comment le rôle il joue dans la construction du mémoire collectif dans un sentiment d'attachement à ces lieux. Donc en fait, dans ce travail, j'ai essayé de dévoiler la dimension mémoriale. Et pour ce faire, nous avons associé les configurations spatiales aux expériences vécues à partir de la parole des usagers. Les usagers sont variés, il y a des étudiants, professeurs, administration, visiteurs, etc. Donc en fait, avant que je commence, j'aimerais bien juste retourner à ce que dit Théo, qui était aussi dit par Anthony, par Laure, le sonore, et ça que je trouve fabuleux dans la manière d'aborder le son, ici au Cresson, c'est le fait. Il y a les signaux sonores, il y a les mesures, mais il y a aussi l'écoute. Et en fait, comment écouter et comment à partir de l'écoute, on peut faire les analyses, c'est ça les plusieurs méthodes qui sont importantes et qui en fait fait partie, je trouve que c'est très important les effets sonores, parce que ça permet à partir de l'écoute, on fait l'analyse, parce qu'il s'agit de cibler la transition, le changement, et l'existence du son, d'un phénomène sonore. Donc ici, je vais vous présenter un exercice que je fais avec mes étudiants, enfin je laisse, pas mes étudiants, mais les étudiants.
Thank you.
Bah, en fait, ça, c'était, on a préparé à l'époque la première édition de la Semaine du Son, qui a commencé par un concert. Donc, ce concert-là était sur la momie, la parade des momies. Est-ce que vous avez entendu parler? Pas du tout. Bah, en fait, la parade des momies, c'est un événement qui est quand même, qui était un moment, un événement international pour déplacer 22 momies royales de musée du Caire, à Tahrir, ou un autre musée qui se trouve à Al-Fustat. Il y a le nouveau musée qui se trouve au Caire. Il y a deux grands musées qui ont été construits. Donc, il s'agissait de déplacer ces momies dans un autre endroit. Et pour ce faire, il y avait une grande fête dont il y avait l'orchestre en développé une chante, ces chantes pharaoniques, d'une mélodie qui s'appelle la momie des la parade des momies. Donc ça, c'est le chant de. Et puis il y avait le chef d'orchestre Nader Abbasi, il y avait aussi le compositeur Hichem Nazi, et puis il y avait tout un travail sur la langue hiéroglyphique, et puis qui a été déplacé. Et dans ce contexte-là, je me suis dit, pour comment on peut, à travers la chante, tester la réverbération, c'est un espace, c'est un atrium, c'est l'entrée principale du palais où il y a le dôme, enfin, je vais vous montrer ici. Donc ici, le dôme, donc ça c'est l'entrée principale. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait, à partir de la chante, on peut faire sonner l'espace pour en fait faire intégrer cette question de la réverbération. D'accord ? Donc en fait, c'était ça un des exercices qu'on a fait avec les étudiants. Et puis finalement, dans la cérémonie initiale, on a choisi que quatre, deux hommes et deux femmes qui ont chanté dans cet espace, et puis on a chanté à l'intérieur de l'amphithéâtre. Donc ça, en fait, ça c'est les deux. Enfin, je vais juste parler un tout petit peu de la méthodologie. Donc la première méthodologie qu'on a établie ici au Cresson, c'est à partir de la parole aux âgés. Et en fait, c'était d'une vingtaine de films. Chaque série de dix entretiens filmés, semi-directifs de 20 minutes chacun. Et en fait, on a travaillé sur un ensemble des personnes pour voir comment eux, en fait, ils gardent des traces de la mémoire, quels sont déjà les phénomènes identitaires de cette école. Et puis après, et quels sont les endroits ils ont choisis pour cette mémoire. Et après, ça c'était pendant European Acoustic Heritage, et après, puisque j'étais aussi membre dans le projet enseigner l'architecture, donc en fait j'ai fait un travail plus important et plus long avec les chercheurs du Cresson sur le son ici. Donc c'était des entretiens plus longs, d'une grande durée, c'était avec Jean-François Rouillard, Jean-Jacques Delitré, j'avais la chance de le rencontrer ici à l'école. Donc en fait, par rapport à ce qui se passe en Égypte, c'était plus l'écoute, donc les parcours commentés. Donc on a fait des travaux avec les étudiants pour faire écouter les différents dispositifs. Puis on a fait des rencontres collectives pour mettre en discussion, en débat ce qu'on entend ensemble. Et puis comment eux, ils peuvent identifier le changement, de quelle manière, etc. Et puis aussi par rapport à des instruments musicaux, par la chante, par la matérialité de l'espace, la forme de l'espace, comment en fait ils sont. Donc en fait, pour l'échantillon, en fait, on avait un ensemble des personnes qu'on a choisies. En fait, ça couvre une durée de connaissance de bâtiments assez variée, ça peut être une heure. Ça peut être un mois, ça peut être une année, plusieurs années, voire toute leur vie, ils travaillent à cette école à partir de l'ouverture de cette école jusqu'à il y a très très peu de temps. Donc en fait, ces gens-là sont assez importants parce qu'ils permettent en fait soit d'identifier certains dispositifs qui n'existaient plus, ou bien de parler de l'évolution de la sonorité de l'espace au fil du temps. Donc, à partir de tout ce travail-là, nous avons capté certains phénomènes qui ont été catégorisés tout d'abord, des principes architecturaux, donc la conception architecturale, les choix des matériaux, la forme de l'espace, etc. Et puis, des phénomènes liés à l'usage et à la présence humaine, l'écho des voix, des pas, la musique, etc. Et puis, des sons associés à l'insertion du bâtiment au milieu d'un quartier urbain, ou pas, ou si isolé. Donc, en fait, la relation entre le bâtiment et son entourage à l'échelle urbaine. Donc, en fait, peut-être je peux commencer par la faculté polytechnique. Je vais juste donner quelques... Donc, voici, il se trouve dans un quartier très, très dense, là, basé au centre-ville du Caire. Et en fait, le palais se trouve ici. Et puis, il y avait les champs de sport derrière, qui a été, en fait, construit selon les besoins. Ici, il y a tout un ensemble de workshops. Parce qu'avant, elle raconte l'histoire de l'école en tant que institut de fabrication et d'artisanat avant qu'il soit une vraie école d'architecture. Donc en fait, il y a quand on parle de l'histoire du bâtiment, il y a trois moments importants. Il y a le palais lui-même, qui était dans au milieu des années 1800. Et puis, en fait, ça s'ajoute une deuxième partie dans les années 70, qui est faite par un architecte professeur à l'école assez connu, qui s'appelle Farouk Gohari, qui en fait a trouvé, donc ça c'est l'ancien palais, et voici les champs avant qu'il soit en fait école d'architecture. Et puis en fait ici, c'est une architecture complètement différente dans le bâtiment, avec le béton armé et les briques, d'accord, avec les escaliers à l'extérieur, donc une architecture qui marque le ton à cette époque. Donc en fait, on faisait, comme je vous ai dit, on a fait des exercices d'écoute et puis des rencontres au fur et à mesure que les étudiants pratiquent certains espaces. Et puis, on a fait des entretiens avec plusieurs profs, étudiants, etc. pour en fait des entretiens très très... 5 minutes, 4 minutes pour dire un endroit qu'ils préfèrent en termes sonores. Oui, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils les préfèrent. Enfin, c'est assez court. Et puis après, donc à partir de ce travail-là, ça fait surgir quelques phénomènes dont je vais vous faire écouter. Donc la question de l'eau, la fontaine. Donc en fait, quand j'étais étudiante, la fontaine était pendant plusieurs années ne fonctionnait pas, parce qu'elle était assez ancienne et puis tout la maintenance de cette fontaine n'était pas. Et dans les années, en 2010, il y avait un autre doyen qui a fait fonctionner cette fontaine, et depuis ça devient un marqueur sonore très important. Donc en fait, ça suffit, visuel bien évidemment, et sonore. Et ça suffit les usagers ont dit qu'ils aiment bien rester à côté de la fontaine parce que le son d'écoulement d'eau, ça donne un rafraîchissement, surtout pendant l'été où il fait vraiment chaud. Puis on passe par un autre son. Donc ça, c'est un ancien stadium. Donc, c'était pour regarder en fait la course des chevaux. Et il reste toujours. Et en fait, ça donne sur les terrains de foot. Et en fait, c'est toujours un espace où les étudiants font de la pause. Et il y a une réverbération très intéressante parce que c'est ouvert d'un côté. Et puis, à l'intérieur, il y a toute une réverbération qui se passe dans le stadium. On passe ici par les ateliers de design. En fait, ces ateliers sont tout le temps assez animés, c'est assez grand. Et en fait, ils sont hauts avec le même système de sautus. Et en fait, dans ces endroits-là, il y a tous les étudiants qui sont là, qui parlent et qui discutent dans plusieurs groupes. Et puis, un phénomène qui est très intéressant, en fait, il y a les pigeons qui entrent, qui s'installent et qui vivent avec les étudiants. Donc en fait, quand on a fait les entretiens avec les profs et les assistants, les étudiants, le son des pigeons qui volent dans les, parce que c'est assez grand, donc ils volent, ils s'installent quelque part, ça fait partie en fait de l'expérience vécue de ces espaces. Et je trouve en fait, quand on parle aux autres, ça donne quand même une couche de compréhension de l'espace. C'est très difficile en tant qu'enquêteur de le, si vous n'avez pas assez vécu dans l'espace, de le capter. Donc je trouve que c'est toujours, quand on parle aux usagers, ça dévoile une couche d'écoute assez importante. Donc en fait, voici le rendu. Donc les étudiants, ils essayent par la représentation de dire quels sont les endroits qui ont. Donc on a cité une vingtaine d'endroits dans l'école qui fait mémoire. Par exemple les entrées, parce que les entrées, il y a beaucoup d'art. Donc les chants des oiseaux marquent l'entrée de l'école, puisqu'on rentre dans un palais. Et puis l'atrium, la réverbération, les escaliers à l'extérieur. C'est un espace qui accueille les étudiants pour s'installer, pour rester, pour parler, pour manger, pour faire la fête, pour faire de la musique. Donc c'est un espace, je trouve, assez... il y a beaucoup d'hospitalité, que ça m'a fait penser beaucoup à William White, de penser l'espace, pour voir comment les gens s'installent et pourquoi. Donc en fait, les escaliers, c'est un élément assez important. Et puis il y a des sons comme l'appel à la prière, les couloirs, ça fait aussi partie de l'identité. Je passe après en fait à l'insac. Et en fait, j'aimerais bien juste poser des questions concernant votre expérience à vous. Comment vous avez pu ou pas identifier certains phénomènes? Et pour vous, c'était nouvelle, ordinaire. Enfin, Et quelle est votre connaissance de ce bâtiment? Est-ce que vous connaissez très très bien ou bien est-ce que c'est la première fois que vous faites une visite? Difficile, hein? Et on est fatigué. Oui, oui.
Ouais, moi, je suis pas venue très souvent. Tout à l'heure, on était dans un amphithéâtre, j'entendais le cours d'à côté. Ça m'a beaucoup surpris. Je pensais pas qu'on pouvait entendre le cours juste à côté et rester concentré sur ce qui se disait dans le nôtre.
C'est une expérience. Super, c'est vrai, on en parle. Quoi d'autre?
Nous, dans la salle des doctorants du Cresson, on a une expérience surtout l'été, au printemps, quand c'est ouvert. Il y a l'école, en fait, juste derrière.
Ouais.
Et je crois que j'ai réalisé, là, ces dernières années, mais à quel point les cours de récréation, les sons qui sortent de la bouche des gamins, mais c'est un des hurlements, mais c'est incroyable, quoi. Et voilà, t'es en train de travailler, et puis là, tout d'un coup, c'est la récré, tu te dis, allez, c'est parti, quoi. Et c'est vraiment impressionnant, enfin, toutes ces diversités de sons qui arrivent, comme ça, de l'extérieur. C'est drôle. Mais sinon, c'est très calme, c'est une petite grotte.
Pour compléter cette expérience-là, dans l'actuelle salle d'impression, là, le LSI, avant, c'était une salle de cours. Ouais. Et quand on donnait cours, en fait, tu avais déjà les hurlements d'enfants, mais surtout, du coup, tu essayais de faire abstraction et de rester concentré. Et tu avais quand même des émergences et des chocs qui étaient les ballons contre les grilles. Et tu vois, du coup, tout sortir par là, forcément, tu étais obligé de sursauter.
Donc en fait, ici, pour parler un peu de bâtiment, enfin, puisqu'on parle de la mémoire d'un espace architectural, donc une forme architecturale, donc je vais quand même tracer un peu son évolution. Donc ce bâtiment-là la conception architecturale était faite par Roland Simonet en 1968. Et puis, ensuite, une deuxième phase qui change un peu, qui change pas mal l'écoute, c'est le projet de reconstruction-extension mené par l'agence Antoine Fix et Philippe Macari. Et en fait, on va raconter un peu l'histoire de l'évolution de ce bâtiment. Pardon. Donc en fait, voici le bâtiment. Donc en fait, on a parlé d'un changement radical de l'éducation de l'architecture, dont le choix et de la localisation de ce bâtiment dans la ville. Donc effectivement, on entend les voisins, on entend les enfants et on entend les oiseaux, le vent. Et puis, il y a également dans l'insertion, je trouve quelque chose qui est inédite dans la conception architecturale. En fait, ici, l'architecte a dessiné une rue piétonne publique pour renforcer cette connectivité entre le quartier et le bâtiment. Et en fait, donc voici l'esquisse, hein, voici le dessin architectural, voici les esquisses de ce passage piéton. Mais en fait, ça reflète cette connectivité, cette alliance entre un contexte urbain et l'école d'architecture pour faire corps avec la ville. Ensuite, la deuxième concept important, c'était la manière d'enseigner l'architecture, en se basant sur la communication, le débat, la parole, l'échange, au lieu d'un prof qui donne la parole. D'où vient l'idée de l'agora, c'est l'espace central, qui en fait c'était le lieu de rencontre, c'était l'espace où on parle, on discute, on échange entre profs, et en fait on m'a raconté que dans cet espace-là, il y a beaucoup de décisions, beaucoup d'idées qui ont sorti grâce à cette manière d'enseigner. Donc en fait, l'architecte, il est né en Algérie, mais il a fait ses études en France, et puis il a fait tout ce travail en Algérie, dont elle était bien influencée par l'architecture de Médina. Donc ça, pour lui, la rue piétonne ressemble à Al-Qasba, donc la rue principale au Médina. Et puis, il y a des cours intérieures, donc c'est un bâtiment introverti, lourd, avec les espaces à l'intérieur où on peut, c'est assez calme. Et ici, à l'extérieur, c'est des cascades qui donnent sur le parc. D'accord ? Donc en fait, après, en 1996, il y a un projet, puisque toute la partie nord était vraiment pas, surtout la rue Piétonne n'était pas utilisée, était sombre, il n'y avait pas vraiment une volonté de s'installer, c'était qu'un lieu de passage, le seul envie de s'en sortir. Donc en fait, c'était récupéré par les deux architectes, et puis en fait, l'entrée principale a été déplacée vers la façade sud par avenue Constantine. Alors, donc voilà, donc ça c'est l'entrée principale, vient de cette partie. Donc juste pour donner une idée, ça c'est les façades avant, pendant l'époque où Simone a fait son travail. Et puis ici, vraiment, enfin c'est ça l'entrée principale. Et puis il y a toute une partie qui a été en fait ajoutée. Donc il y a trois espaces qui ont été ajoutés, ces deux, et puis l'entrée principale de l'école. Alors, comment cet espace sonne alors ? Quelles sont les identités sonores ? Donc la première chose, c'est le son de l'eau. En fait, l'architecte a privilégié une manière de récupérer le système ouvert de la pluie. Donc on entend cet écoulement d'eau quand il pleut et bien longtemps après l'arrêt de la pluie. Parce qu'il y a des bassins qui gardent et collectent l'eau et puis ça descend le long des façades jusqu'à qu'il jusqu'à ce qu'il finisse en fait cette son là. Donc on l'entend à la fois à l'extérieur, ça marque surtout la façade sud quand on rentre, surtout quand il y a après la pluie, après l'arrêt du pluie, mais aussi à l'intérieur. Donc on travaille avec ce son là. Et puis donc en fait, j'aime bien Grigor Shelkov, c'est lui qui a dit ça en fait. Ce bâtiment n'est pas moué sous la pluie. L'écoulement de l'eau fait chanter le bâtiment. Je trouve que c'est assez beau en fait. Et c'est très juste, parce qu'elle répond en fait oralement aux conditions climatiques. Donc ça c'est le système. Après, ce que tu as dit, la cour d'école. Donc en fait, c'est il y a le au pied de l'école, il y a une école maternelle. Donc en fait, quand on donne des cours, c'est assez particulière comme expérience. On donne des cours, ou bien on a des cours, et puis on entend les enfants jouent dans la cour, et puis il y a les ballons qui tapent. Donc ça fait quand même, on se regarde, il y a une pause. On se regarde, on rit. C'est quand même amical dans cette ambiance sérieuse et pédagogique. Et puis on a un son qui fait une ambiance gaie, enfin, je trouve. Et puis on s'arrête pour quelques instants et puis on reprend. Mais ça marque, ça marque l'écoute et ça rythme. L'écoute, on sait que, par exemple, maintenant, c'est la pause, donc on va entendre les enfants dans les cours. Mais en fait, tout ça, ça fait partie de la façade nord. Et la façade nord, on a aussi cette rencontre avec le quartier. Donc on entend les voisins qui marchent, qui passent, qui discutent, qui s'appellent par la fenêtre, les oiseaux. Donc ici, en fait, dans les, surtout pendant l'été ou le printemps, enfin, on prend la pause dans ces terrasses. Et c'est des moments de pause assez agréables. Après, en fait, la réverbération, donc en fait, la réverbération puisque le matériau principal, c'est le béton, donc en fait, la réverbération, c'était, et ça a beaucoup diminué, mais c'était un effet remarquant différents espaces, dont bien évidemment l'agora, donc c'était difficile de s'entendre. Et puis après, donc tout de suite après, ils ont fait une réhabilitation sonore de cet espace. Et puis il y avait après le projet de rénovation. Donc en fait, ici, Jean-Jacques Delettré, pour décrire en fait cette ambiance, m'a amené en fait vers la partie, vers la rue Piéton, une partie de la rue Piéton. Et puis il commence l'entretien en disant, et ça réverbe, c'est claquant de doigts, puis il dit, voici l'identité sonore de cette école. Et en fait, il dit comment c'était, en fait, il commence à décrire cette rue Piéton, comment c'était, et puis comment c'est changé dans le temps, mais ça reste la réverbération. Et puis, ensuite, Jean-François Augouillard parle des sas. Et les sas, aujourd'hui, c'est l'entrée, si on a les deux extrémités de la rue Piéton, et en fait, l'entretien, c'est très intéressant, parce que pendant l'entretien, Jean-François Augouillard devait parler et en laissant tout doucement pour qu'on puisse s'écouter, tellement son son a réverbéré. Donc s'il parle normalement comme ça, on ne peut pas s'écouter, enfin, parce que ça réverbe dans l'espace et on peut pas s'entendre. Et ensuite, donc ça a complètement été changé, sauf les deux sas. Et puis en fait, un des phénomènes qui n'existe plus, Jean-Jacques Delettré a évoqué, c'est les fausses à conversation. Ça n'existe plus. Mais en fait, c'est nommé en fait dans le design initial de l'école d'architecture comme l'aire de détente. C'est des espaces de 2 mètres carrés avec un hauteur de 1,80 m. Pour mettre 4 ou 5 étudiants, de se regrouper et de parler ensemble, de travailler ensemble. D'accord ? Donc ça aussi, c'était pas utilisé parce que les étudiants, finalement, ils ont travaillé chez eux. Donc ces espaces-là ont été récupérés dans le projet de rénovation. Donc ça n'existait plus, ça n'existe plus. Et puis, un son qui s'ajoute, c'est l'EPA. Est-ce que vous avez rentré par l'entrée principale ? Donc en fait, ça c'est une matérialité qui était ajoutée sur l'architecture initiale, c'est en acier. Donc en fait, le son des pas, quand on monte, c'est aussi marquant l'entrée de l'espace. Ça a été rénové. Et je suis bien contente qu'ils n'ont pas changé le sol, hein, parce que ça donne quand même la même réverbération. Et en fait, si on parle aussi de l'hospitalité, cet espace-là, c'est exposé au soleil. Donc on voit pendant la pause, les étudiants, les professeurs en train de prendre leur café, faire une pause cigarette sur cette terrasse qui se trouve à l'entrée du bâtiment. Donc voici l'entrée. Donc c'est un espace assez agréable. C'est les étudiants qui ont marqué cet espace en disant que quand on arrive tous ensemble à la bourre et puis on monte, on entend vraiment tous ces pas qui montent à la vitesse pour aller participer à leur cours. Donc en fait, je m'arrête là pour faire une conclusion. En fait, moi je m'intéresse beaucoup à la question de l'héritage et l'héritage sonore, et la question de la mémoire, et comment, en fait, cette question de la mémoire pour créer une sorte d'identité, un sentiment d'attachement. Donc, en fait, il y a des effets, il y a des sons qui font l'effet d'anamnèse, donc par exemple la réverbération, qui remonte en fait dans le temps, qui permet en fait de penser, repenser à d'autres faits, à d'autres événements qui étaient faits dans l'effet de réverbération. Et puis en fait, permet de trouver les traces phoniques, ce qui existe, ce qui était affaibli et ce qui était rasé ou bien ça n'existe plus dans le tombé dans l'oubli. Donc en fait, je trouve que ça c'est assez important quand on fait un projet de rénovation architecturale, parce que ça en fait cette identité sonore, ça joue un rôle dans l'identification, l'appropriation des lieux, et ça mérite en fait d'être intégré dans tout projet de rénovation. Ça peut être tout simplement un matériau de sol, des types de façades, d'espace, des cloisons qui fait un effet. Quand on est architecte et qu'on pense que l'aspect visuel, on ne peut pas prendre en considération et intègre cette dimension quand on fait le projet architectural. Enfin, franchement, moi personnellement, je regrette de ne pas avoir vivre cette expérience de fosse de conversation. J'aurais aimé qu'il reste une seule, pour vivre cette ambiance. Ben, en fait, c'était pas que ça. Il y avait beaucoup de phénomènes, mais moi, je me suis dit que je vais arrêter sur 3 phénomènes par bâtiment. Mais il y avait des sons, de la musique, par exemple, la piano ici. Il y avait beaucoup d'autres sons qui identifient l'espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Temps pour prendre des questions pour cette journée. Alors, peut-être le premier rebond que j'aurais, c'est en fait entre la NSAG et donc l'université au Caire, je me disais, ah, tiens, là il y a la question de la langue. Alors peut-être que ça tu t'intéresses pas forcément à ça dans ce que tu nous as présenté, tu vois, mais je me dis ça fait aussi vachement partie, quoi, des ambiances sonores et ouais, de la différence entre les deux. Et je sais pas si je sais pas, c'est peut-être pas quelque chose que tu as forcément observé ou comparé, quoi, mais ça doit être quand même un élément marquant aussi de ce milieu sonore, quoi, et des différences entre les deux, et qui serait peut-être intéressant.
Oui, bah en fait c'est vrai, tu... C'est assez. On a parfois, quand on est entre les deux, on a des choses évidentes. Mmh. On n'y pense plus. Donc, par exemple, quand on parle des choses marquantes qui sont assez répétitives, comme par exemple l'appel à la prière, les étudiants n'en parlent pas. Pourtant, il est assez présent, mais puisque c'est tellement. Enfin, c'est évident. Donc, pour moi aussi, la question de la langue est aussi. La hauteur de voix, ça aussi ça joue, parce que par exemple les étudiants, ils jouent ensemble, ils se discutent d'une voix parfois plus haute qu'ici, donc tu vois, ça c'est des choses que j'ai vraiment, ouais. C'est une bonne remarque pour moi, c'est ça s'est passé comme ça.
Une question sur
attention le Larsen.
Ouais. La question était autour de, c'est sur les deux sites, mais je pense surtout ici parce que je le connais. Alors dans les entretiens, c'est avec qui vous avez parlé? Alors à la fois équipe pédagogique, équipe administrative, étudiants, dont vous avez fait, et aussi peut-être des. Ouais, si vous avez parlé, par exemple, à Lucas, je s'appelle, qui gère la sécurité.
Lucien.
Lucien qui gère la sécurité et toute la... Qu'est-ce que c'est d'être à l'école la nuit quand il n'y a personne d'autre, ouais. Voilà. Alors, juste la question de l'enquête, de qui, la question du qui, et comment ces questions du qui, ou les diversités des qui, donnent à vraiment essayer de prendre le bâtiment dans la ronde.
Donc en fait, c'est vrai. Donc en fait, le choix, c'était assez ouvert. Donc on a vraiment pas choisi des certaines personnes d'une critère. On pose la question, on demande est-ce que vous acceptiez de faire cet exercice ou pas. Mais finalement, on a choisi, c'était en 2013, hein, ça fait presque 10 ans, il y avait Émilie à l'accueil, donc on a fait l'entretien avec elle, et puis il y avait José. C'était le collègue de Lucien. Et puis on a parlé aussi avec l'administration, il y avait Marie Rosé. Et après, quand la deuxième série, c'était les enseignants au Cresson. Ce qui était bizarre, et j'aimerais bien vraiment avoir un temps de réflexion, de recul. Jean-François Aubert et Jean-Jacques Delettré, ils ont choisi des espaces très très proches. Un qui a choisi le long du Repeaton, et Jean-François Aubert a choisi les sas d'entrée. Et ils ont parlé de la réverbération. Et c'était un entretien très long de 2 heures. Et puis, Jean-Paul et une autre catégorie d'âge, ils ont choisi la cafette avec l'administration, tu vois. Et puis ensuite, José, si je me souviens bien, parce que je ne me souviens pas de tout, ils ont choisi les garages. Et puis les étudiants ont choisi les espaces intermédiaires ou les toits. C'est les espaces où ils font les pauses. Donc, soit les côtes panoramiques au toit, soit bien les terrasses dans lesquelles ils se trouvent, ou bien les escaliers. Donc, en fait, ça dépend quels espaces on utilise qui marquent. Après, Nicolas Texier et Nicolas Rémy, qui sont aussi les mêmes âges, les deux ont choisi les terrasses. Enfin, je me suis dit, mais il y a quelque chose, peut-être quand on est amis, on sort, on utilise les mêmes espaces, on est dans cette ambiance-là, on partage, donc on les évoque. Ils ont choisi les mêmes endroits, ils sont sortis par cette porte, et puis ils s'installaient dans le même endroit. Donc, c'est en fait c'est Grégoire qui m'a parlé de la gargouille. Jean-Paul m'a parlé aussi de la son de la musique. Donc, je me suis dit il y a quelque chose ici. C'est un groupe qui parle en fait de la même chose. Un groupe. Enfin, je ne veux pas dire d'âge, mais un groupe qui travaille ensemble à un moment donné. Donc, ils ont une mémoire spécifique d'une partie de l'école.
Est-ce que vous suggestez cette expérience être négative ou positive ou pas?
Non, c'était pas ça. En fait, c'était pas ça l'objectif. C'était pour eux, la question qu'on pose, c'était un entretien de 20 minutes. Hein. Et puis, on a commencé par un exercice d'écoute, et puis on a posé des questions. Mais la question principale était, quel est pour vous ce qui fait une identité sonore de l'école? Donc, en fait, ça peut arriver pendant l'entretien qui disent oui je qualifie cette ambiance en tant que c'est positif ou négatif, mais c'était pas ça. Ça peut arriver ou pas. Autre question? En fait, je pense que c'est des interventions l'un après l'autre. Ouais. Bravo pour ces danses. Merci beaucoup. Hein, et...